Loulou abadou eginoun.
Bonjour.
Odin, jadanik mandataen erdia, bilan baten egiteko tenoia ordin, nulako bilana egiten duzie.
Voilà, un peu plus que la mi-mandat, puisque c'est il y a 40 mois que nous sommes élus. Et comme on a été élus en juillet, et que l'élection va avoir lieu en mars, c'est un peu plus de la mi-mandat, mais enfin, peu importe. Donc, une conférence de presse a eu lieu, c'était le 8 novembre à 17h, très intéressante, puisqu'elle était... Elle était animée par le maire, normal, et les sept adjoints présents, à l'exception de Florence Labadeau, qui n'a pas pu se libérer au niveau de son travail. Donc, après avoir fait le tour, en ce qui me concerne, bon, le fonctionnement de la conférence de presse était bien calé, ça avait été traité en amont, après le tour des projets en cours, en particulier, par exemple, la place à Hauteville. J'ai souligné fortement toutes les lourdeurs administratives, les freins, les obstacles. Mais enfin, les choses avancent quand même, puisque l'ouverture des plis est prévue pour le 20 novembre, c'est-à-dire c'est imminent. Beaucoup d'entreprises ont retiré le dossier. Le maître d'œuvre va faire un premier jet au niveau de l'étude pour définir des critères. Et normalement, le 27 novembre, les entreprises sont retenues. Après l'installation d'un mois pour le chantier, les travaux commenceront le 6 janvier. Pour se terminer jusqu'à hauteur de la fontaine, le 10 juin, date des fêtes à Hauteville. C'est une promesse, et elle sera tenue. Le fil rouge de notre conférence de presse a été clair, c'est promesse faite, promesse tenue. Alors, on peut constater qu'effectivement, et je l'ai dit, certaines promesses ne sont pas tenues. Mais ce n'est pas dans notre fait, parce qu'effectivement, il y a des choses qui n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaiterait en termes de financement. La France a cette particularité que pour mener à bien des projets, il faut beaucoup de temps. Donc, par exemple, les évents où il y aura 6 logements en BRS, nous avons acheté les évents, enfin, le PFL l'a acheté, ça y est, c'est ficelé.
BRS ?
Oui, bâtiment réhabilitation sociale, c'est-à-dire bâtiment social. Donc là, ça y est, c'est fait, ça passe là devant le notaire, et les travaux vont commencer, enfin, le chantier est lancé, espérons qu'il sera finalisé avant la fin du mandat. Je dis j'espère, parce que c'est pas toujours le cas, quoi.
Donc ces appartements appartiendront à la mairie ou c'est...
Non, dans un premier temps, ils appartiendront à le PFL, ils seront ensuite rétrocédés à la mairie. Voilà. Donc effectivement ça. Ensuite, on a la place de la résistance, où on va essayer de faire ça en maîtrise d'œuvre conjointe avec la CAPB et le conseil départemental. Une réunion va avoir lieu rapidement avec le maître d'œuvre de CAUE. Pour finaliser le projet, mais qui se heurte à quelques difficultés de fait la présence de la coopérative agricole et son silo, qu'il faut déplacer. Enfin, bon, il y a quelques complications, mais il y a des complications dans tous les dossiers, c'est pas si simple qu'on croit. Donc, effectivement, ça aussi, ça avancera peut-être pour la fin, on l'a dit, pour la fin 2025, je pense que ça sera fait. Alors, il y a d'autres projets qui apparemment ne sont pas de notre responsabilité, mais oui. Puisqu'on l'avait promis, c'est le centre d'évocation de l'industrie de l'espadrille qui va devenir un centre de valorisation de la filière de l'espadrille, mais peu importe la dénomination, puisque après avoir disparu des radars, il est revenu à la surface grâce à notre pugnacité, parce que c'est toutes les interventions qui ont pu être faites, les contacts qui ont permis que ça remonte un peu, quoi. Donc ça aussi, ça sera, je pense, très rapidement mis en œuvre. Bon, le terrain synthétique, vous le savez, on a mis 7 mois pour le faire dans des conditions difficiles. Bon, mais c'était une promesse de campagne, elle a été tenue.
Justo, quelqu'un qui s'en a hors Europa l'éthique synthétique, ou qui est débécatu qui s'en a dit la hamar urten buyan, c'est vrai que l'Egnen du Ciel ou en du Ciel passe.
Vous savez, l'Europe, c'est à géométrie variable, l'Europe. Donc, effectivement, j'ai entendu que ça avait été interdit. Mais ça n'empêche pas qu'une promesse était faite et qu'elle a été tenue. Alors, effectivement, si dans 10 ans, supposons que je sois le maire de Montléon, je m'inclinerai et je démolirai le terrain synthétique pour en faire un terrain normal, quoi. Mais on n'en est pas là. Je dis bien supposons, qu'on soit très clair. Oui, j'ai entendu ça, mais les orientations de l'Europe contradictoires ne me surprennent pas, moi. Donc aujourd'hui, ça y est, il est là. Bon, il satisfait quand même un club de manière importante, des gamins, enfin des adultes, c'est bien. Et vous le savez aussi bien que moi, on dit que on polémique, mais pas du tout, quoi. Je polémique jamais. J'essaie d'être fidèle à la réalité objective. On dit qu'on parle d'héritage, mais oui, je suis obligé de parler d'héritage. Et justement, dans cette conférence de presse, l'adjointe aux finances, l'Aurélie Cassin, de manière remarquable, a situé la problématique financière de notre commune. Mais pas sur des éléments de polémique, parce que ça, ça n'existe pas. On peut pas être en position de gestion, être polémique en permanence, quoi, c'est pas notre façon de voir les choses. Mais elle est obligée de dire qu'on a commencé le mandat, je l'ai montré à la presse, parce qu'on peut pas se délier de l'obligation de réserve. J'ai montré à la presse que nous étions dans le réseau d'alerte, c'est là, devant vos yeux. J'ai aussi montré à la presse ceux qui avaient en caisse au début du mandat, enfin pas moi, c'est l'Aurélie qui l'a fait. En début de mandat, vous le verrez tout à l'heure, il y avait 80, c'est pas moi qui l'écris, c'est les finances publiques, vous le voyez, 91 418,33 euros le 27 avril 2020. Donc c'est avec ces conditions qu'on a pris la mairie. Et c'est sur ces bases-là aussi qu'on s'est entêté pour faire le travail synthétique à hauteur d'un million, malgré l'avis contraire de tous les intervenants et tous les institutionnels. Et heureusement, je le dis parce que c'est vrai, l'État n'aide pas beaucoup en permanence les communes, au contraire, mais heureusement que j'ai eu le sous-préfet de l'époque, M. Pécat, qui a dit, bon, votre dossier, normalement, ça devrait pas passer, parce que vu la situation de votre commune, c'est suicidaire quelque part. Mais ok, allez-y, quoi. Allez-y. Et ils nous ont soutenus. Et là, Madame Ponce m'avait dit, très honnêtement, elle me l'a écrit, dans la situation de la commune, ça serait politiquement pas juste d'aller jusqu'au bout de la mise en œuvre de ce terrain. Mais elle me l'a pas dit, elle me l'a écrit, quoi. Donc effectivement, ça c'est pas la polémique, c'est du constat. On a dit une promesse était faite, on va la tenir. Et on l'a tenue. Et aujourd'hui, on a été subventionné à 80%. Mais vous devez penser quand même, toutes nos considérations doivent penser quelle somme d'activités et de contacts qu'il a fallu mettre en œuvre pour arriver à ce résultat. Mais c'est pas de la forfanterie, c'est du constat. Donc quand on dit l'héritage, oui, l'héritage. L'héritage, si on suit le raisonnement qu'on nous a, on est venu dire, vous avez vu que c'est confidentiel, mais moi, vous savez, confidentiel, quand je fonctionne, c'est, on nous dit, vous êtes dans le réseau d'alerte de la préfecture, c'est dangereux, quoi, parce que ça peut être la tutelle. Mais aujourd'hui, on n'est pas sous tutelle. Aujourd'hui, on a donc mené à bien ce terrain synthétique. On avait promis de symboliser Mauléon par deux espadrilles géantes, c'est fait. Bon, c'est pas très cher, hein, mais il a fallu la participation, y compris de gens extérieurs à la commune, c'est très bien. La participation citoyenne est un élément fort aussi. Et on va faire la place à la haute ville qu'on promettait depuis, vous le savez, depuis des années, dans tous les programmes, parce que j'ai les programmes de mes contradicteurs en archive, bien entendu. Alors promettre, c'est une chose, mais tenir les promesses, c'est plus compliqué. Alors on le dit, et on l'a dit avec force, nous essayons de tenir nos promesses. Avec un regret énorme, que dans l'application de notre programme, il y a un aspect qui n'est pas pu se réaliser. Nous avions suggéré la mise en place d'un observatoire des engagements constitué d'élus, de gens de la société civile, pour vérifier pour quelles raisons il y a des obstacles, pourquoi on ne met pas en pratique des promesses de campagne, qu'est-ce qui freine, et on n'a pas pu. Ça aurait été super intéressant que des gens hors élus puissent se rendre compte que c'est pas la gestion d'une ville n'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Il y a quand même des éléments qu'il faut prendre en compte. Ça, je regrette beaucoup, parce que démocratiquement, ça aurait été un truc super.
Eta komisione hoi, uai sortia, zentako ez unuke eginen.
Mais je lance un appel toujours tout à fait tranquille. Je viens de participer avec Pierre González, adjoint à l'urbanisme, lundi, au conseil départemental de Bayonne, un colloque sur la démocratie participative, très très intéressant, d'ailleurs avec les expériences des uns et des autres en la diversité. Mais je l'ai dit, ça. J'ai encore à cœur de créer de créer cette structure, qu'on vienne nous dire, tiens, mais comment se fait-il que vous avez promis une salle, un auditorium pour les jeunes et que vous ne la mettez pas en pratique, quoi? Mais je dirais pourquoi. Je dirais pourquoi, y compris avec tout ça, avec tous les éléments. Non pas pour se défausser, mais pour être clair sur les possibilités de faire ou de ne pas faire. Donc je crois que c'est très important qu'on puisse encore réfléchir à ça. Il reste 2 ans et demi de mandat, et si effectivement ça ne se met pas en place, je suis sûr que l'équipe de l'Union citoyenne qui se présentera au suffrage des électeurs remettra ça à son programme, quoi. Parce que c'est essentiel que, en début de mandat, vous m'avez entendu dire que je serai le maire de tous les Mont-Lyonnais. Je suis le maire de tous les Mont-Lyonnais et toutes les Mont-Lyonnaises. Et j'aurais aimé que quelque part, on s'intéresse de plus près à la chose publique, mais c'est compliqué.
Hor, errandu zu Union Citoyenneko zerrendakuk ondoko aldi nahi dizueran ez ziela presentatuko.
Alors, j'ai dit que, bon, je pense que personne n'en doute, il y aura une liste Union Citoyenne aux élections 2026. Mais la question de la présentation au nom de Louis Lavado, c'est pas un problème, ça.
C'est pas acté.
Ben, c'est pas acté du tout. Mais Louis Lavado, ben, objectivement, il est raisonnable, ce garçon. Il sait très bien que en 2026, il aura 83 ans. Alors, est-ce un obstacle? J'en sais rien. C'est rien. Si je suis dans le même état physique et mental à peu près, quoi. Mais je pourrais peut-être apporter ma contribution à la liste. Voilà. Mais rien n'est exclu.
Voilà. Tête de liste ou dans la liste?
Mais tête de liste, j'en sais rien. Moi, je suis très content d'être maire de Mont-Léon, puisque les citoyens Mont-Léon ont voulu que je le sois. Je connais, parce que je suis quand même raisonnable, je connais les conditions de l'élection, dans quelle mesure on n'est pas l'émanation de la majorité de la population. Il faut faire avec. Hein. Je sais très bien que pour se représenter au suffrage, on sera sûrement élu sur des positions politiques justes, mais pour partie. La dernière fois, on a été élu sur des positions politiques, certes, parce qu'il y a quand même un fort courant progressiste à Mont-Léon, et aussi sur par défaut par rapport à la gestion de l'ancienne municipalité. Il faut être raisonnable, c'est vrai, et tout le monde le sait. Et là, ce coup-là, on ne sera pas élu par défaut, on sera élu sur un bilan. Et donc, j'y reviens. Ce bilan, on sera réélu ou pas sur le bilan, sur les positions politiques et le bilan. Dans ce bilan, il faut qu'il soit le plus cohérent possible et le plus possible en phase avec nos promesses de campagne. C'est très facile de faire un programme électoral. Il suffit de 5-6 gars qui se mettent autour de la table, qui élaborent des idées fort généreuses, parce qu'on en a tous. Mais après, à l'aune de la vie, il faut vérifier si c'est possible ou pas, parce qu'on peut toujours dire, et puis on dit on n'a pas pu faire, donc on fera le coup d'après, une fois élu. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Donc effectivement, ce bilan, si les Mont-Lyonnaises et les Mont-Lyonnais sont conscients qu'on a fait le maximum, eh bien, ils nous accorderont le suffrage. Dans le cas inverse, eh bien, ils feront les choix qu'ils voudront bien faire. Moi, avant tout, je suis un républicain et un démocrate. Voilà, avant tout. J'ai aussi un communiste, mais c'est synonyme, d'après moi. C'est pas antinomique. Donc aujourd'hui, bon, ça, les finances, vous savez, quand on peut dire, hein, dans les finances qu'on avait au niveau du désendettement, on était à 16,14 ans quand on est arrivé, qu'on est aujourd'hui à 7,71 ans, ça veut dire qu'un effort sérieux a été fait pour assainir les finances de la ville. Mais quand M. Pécat m'a donné, le sous-préfet m'a donné le coup de main nécessaire, il m'a dit aussi, mais attelez-vous à la tâche, il faut assainir les finances locales, quoi. Alors on nous dira que notre capacité d'autofinancement net n'est pas suffisante, mais c'est vrai. Mais au début, c'était pire. Hein. Alors, c'est vrai qu'on est relatif dans la vie. Aujourd'hui, on peut investir très peu. On a essayé d'avoir le moindre recours possible à l'emprunt. Vous savez que j'ai des courriers qui étaient adressés à mon prédécesseur, où les banques disaient « ne venez pas nous demander la moindre centime parce que vous ne l'obtiendrez pas ». Mais ça aussi, c'est pas la polémique, c'est du constat, ça. Et quand j'ai demandé à une banque 550 000 pour le terrain synthétique et pour le budget qui avait été voté par la précédente municipalité, on m'a regardé comme si j'étais un zombie, quoi, à peu près. Et bien, ça a été acquis. C'était acquis, et donc on a donné des garanties, on a emprunté l'année d'après moins, et cette année encore moins. Mais malheureusement, ça se traduit par au niveau de la satisfaction des besoins, un petit manque, quoi. Par exemple, on avait fait un plan pluriannuel dans notre campagne de la voirie locale tout en enrobé. C'était un plan à 3 millions d'euros en 6 ans. En 6 ans, dont 500 000 euros par an, ça n'a pas été possible. On n'en est qu'à la moitié. Mais parce qu'il faut savoir raison garder d'une façon ou d'une autre. Et donc on fait au coup par coup, en priorisant les choses, en essayant d'expliquer à la population qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Et par exemple, la place de la Haute-Ville va prendre une grosse partie de la voirie de l'année 2024. Mais il faut aussi que les gens comprennent qu'on essaie d'articuler notre position dans l'intérêt commun. Il faudrait, je dis pas il faut, parce qu'il faut, ça existe pas, il faudrait que les gens comprennent. Donc, à ce niveau-là, il y a, à la voirie, bon, Pierre fait un travail remarquable avec les services techniques, etc. Toutes les questions qu'on avait mises en avant de propreté de la ville, vous remarquez qu'effectivement, c'est pas mal. On avait promis l'embauche de personnel, nécessité absolue, au service technique, on l'a fait. L'achat de matériel vétuste, on a acheté un camion Ben, etc. On a fait ce que, si on regarde ce qui est dans notre programme, ça y était. Ça avait été bâti en rapport avec eux. Donc, effectivement, l'école, qui est un souci permanent pour nous, on fait le maximum pour que on puisse faire des travaux, que ça soit les meilleures conditions possibles. On a bataillé avec nos petits centres africains qui sont en Indiane avec une navette, ce qui a permis, et c'est bien pour l'école, d'ouvrir un demi-poste à l'école à Basseville. Enfin, on est présent sur, enfin, tous mes adjoints sont présents sur tous ces fronts, quoi. La vie culturelle, on avait promis un festival, il est sans doute à améliorer. Un festival multiculturel avec une dimension, ça c'est très politique, internationale, quoi. Festival multiculturel, basque, portugais, espagnol, français, quoi. Bon, on a fait à notre façon. Il y a quand même des choses qui ont avancé. La vision internationale avec Pinard Selec, une première année, la Palestine ensuite, les migrants subsahariens, etc. Tout ça, c'est notre ADN. Je crois on essaie. Là, je suis pas en train de dire qu'on se tresse une couronne de laurier. Ce que je dis là peut être vérifié. Et on peut dire, le festival, oui, bon, mais on peut mieux faire, mais ok. Et là aussi, et si les gens veulent apporter leur contribution, pourquoi pas, quoi. C'est tout à fait possible, quoi.
Nazioarteko situazioni aipatu behituk, hor palestindaren alte behitia elkarritaratze sumait, eta ezia agertzen hoietan, zentako erraiten aldeikuzu?
Alors, c'est une bonne question. Vous savez que dans notre programme, il n'y avait pas le jumelage avec la Palestine, hein. Donc ça c'est très politique. Si à l'origine j'ai initié le jumelage avec la Palestine, c'est qu'il y a des raisons de fond en ce qui me concerne, en ce qui concerne certains, et enfin et au bout tout le monde, tous les membres de l'Union citoyenne, c'est le soutien à ce peuple qui est opprimé par avec la situation que l'on connaît. Moi je ne viens pas à ces manifestations. Certains peuvent dire que j'ai abandonné la Palestine, c'est pas vrai du tout. Je suis le 5 décembre à l'Assemblée nationale. Je participe en colloque avec la responsable de l'ONU, madame Francesca Albanese, sur la situation au Proche-Orient et en Palestine. Donc j'interviendrai à l'Assemblée nationale sur ces questions-là le 5 décembre à 13h30. Donc effectivement ces rassemblements, d'abord, j'ai constaté que d'entrée de jeu, vous avez regardé le panneau lumineux, je pense que vous l'avez lu. J'ai signé personnellement sur le panneau lumineux de la ville un texte sur la politique du pire. Et effectivement, j'ai mis en avant les actes terroristes du Hamas. Et je pèse, hein, je condamne fermement les actes terroristes du Hamas. Je n'exonère pas pour autant l'État juif, quoi, hein, et Israël, quoi, hein, parce que je sais ce qu'ils ont fait. J'ai été en Palestine, je sais ce que la Cisjordanie, les territoires occupés, l'apartheid et compagnie. J'ai au cœur toujours la défense du peuple palestinien. Mais tant qu'on dénoncera pas par un document le terrorisme du Hamas, je ne participerai pas à des manifestations. Quand j'ai entendu que on pouvait assimiler le Hamas à des résistants, pour moi, ce ne sont pas des résistants, ce sont des terroristes. Parce que je vais vous dire.
Mais or, c'était les mots d'ordre, arrêtons le massacre à Gaza, et il n'y avait pas...
Oui, mais enfin, il n'y avait pas beaucoup de condamnations du Hamas. Hein. Bon, non, mais je vous le dis. Non, mais avec simplement ça, moi, j'aurais été là. Bon, mais peu importe. Parce que quand même, hein, Charles Enderlin, vous savez, ce n'est pas un ami à nous, Il a dit, mais on le sait, hein, le Hamas, on sait comment il a été créé, pourquoi, quoi. Et en 2019, à la Knesset, Netanyahou disait, le seul moyen qu'il n'y ait pas de territoire palestinien, c'est de renforcer le Hamas, quoi. Et Enderlin a parlé des valises de milliers de dollars qui ont été transitées pour le Hamas. Donc, le Hamas, on sait très bien la créature qui c'est, parce que le premier geste du Hamas, quand effectivement ils ont gagné les élections sur la base de la désespérance du peuple gazaoui, hein, le premier geste, c'est d'assassiner le lendemain matin le secrétaire du Parti communiste palestinien. Le premier geste, hein, il a été assassiné le lendemain matin. Et ils ont foutu immédiatement dehors l'OLP avec tout ce que cela comporte. Alors effectivement, dans cette région du monde, il y a l'exaspération, c'est sûr que le peuple palestinien en a assez, quoi, hein, mais je ne peux pas accepter ce qui s'est fait avec des massacres qui ont été perpétrés. C'est un crime de guerre, c'est un acte terroriste. Comme je n'accepte pas aujourd'hui qu'on tire sur des populations civiles, qu'on écrase tout le monde jusqu'à l'extinction. C'est quasiment un génocide, quoi. Mais je n'accepte pas. On ne peut pas me taxer d'avoir abandonné la cause palestinienne. Tout le monde le sait que je l'ai au cœur, quoi. Mais moi, s'il y a des mots d'ordre clairs, précis, avec des organisations à la population, avec la condamnation des uns et des autres, pourquoi pas? Vous regardez ce que j'ai écrit, le nouveau texte au panneau. J'ai dit la vengeance. Moi, je ne souscris pas du tout à la vengeance, parce que c'est les populations civiles qui payent le prix fort, quoi. Et moi, je suis en contact avec mes amis de Balata, mais il y a une peur extraordinaire, quoi, parce qu'on oublie de dire qu'il y a 194 morts en Cisjordanie depuis le début et depuis le 7 octobre. Mais c'est tous les jours comme ça, quoi. Donc, moi, j'envisageais de repartir avec une délégation en Palestine, et je crois que c'est compromis, hein. Et après, ce qui m'a un peu choqué, de la part de la préfecture, hein, parce que je vais vous le dire, la préfecture, la manifestation du 20 octobre, disons, l'interdit, en disant manifestation à l'appel de Chibéro-Palestine. Et ça, Chibéro-Palestine n'a appelé à rien du tout, quoi, parce que j'en suis membre. Et sur la base, mais écoutez bien, je peux vous donner le document, quoi, sur la base claire de textes parus sur les blocs de militants du Pays Basque Nord. La préfecture qui dit ça, mais moi j'écris au préfet d'abord, Chibéro-Palestine 1, n'a pas donné de consigne de manifestation le 20, je peux vous le garantir. 2, qu'on parle à un militant de Pays Basque Nord pour l'État français, c'est-à-dire entérinant Pays Basque global, etc., ça me surprend beaucoup. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc ils ont rectifié, ils ont enlevé Chibéro-Palestine, ils ont mis Pays Basque, point, à ma demande, hein, ma demande. Mais moi, Chibéro-Palestine n'a pas participé. Et si dans la première manif du 20 octobre, il y aurait un communiqué clair, net, précis, j'aurais été le premier avec vous, là. Parce que moi, je regrette fort que, le petit incident du château fort, c'est un épiphénomène, quoi. Bon.
Ah, il parlait ça, une juste qui s'est Uganda. Qu'est-ce qui s'est passé, justement?
Non, mais, c'est-à-dire, le matin, du 11 novembre, je me fais interpeller vivement par un gars, le châtelain, là, à côté. Disant, c'est lamentable ce que vous avez fait. J'ai fait quoi encore? Et ce drapeau palestinien, là, j'ai même pas vu. Le drapeau palestinien au château fort, j'ai dit, oui, alors, quelqu'un l'a mis, mais c'est pas moi, hein. Oui, c'est vous, c'est pour provoquer. Il n'y a aucun problème, moi, je provoque rien du tout. Et puis, bon, de toute façon, passez ce que vous voulez, ça m'est complètement égal. Donc, effectivement, il y a un drapeau qui a été mis au château. Ce qui me gêne le plus, c'est pas le drapeau. C'est qu'on soit rentré dans le château fort, qui est quand même propriété à la ville, et que quelqu'un a la clé. Mais enfin, bon, peu importe. Il y a trois clés, une à la maison du patrimoine, une ici et une autre ailleurs. Bon, c'est pas grave. Donc, mais qu'on mette le drapeau palestinien, alors que j'ai été obligé, parce que j'ai bien voulu accepter l'obligation d'enlever le drapeau palestinien du fronton de la ville au nom de la République, et je suis quand même un élu républicain, qu'on veuille ou non, je l'ai enlevé à contre-cœur, quoi. Et c'est pas pour m'entendre dire comme hier matin, lundi matin, à la sous-préfecture, mais à quoi vous jouez, monsieur le maire, quoi, tu vois, parce que ça m'est retombé dessus. Alors si c'est pour m'aider, tant mieux, mais si c'est pour me gêner, je comprends pas, quoi. Je comprends pas, parce que ça vient pas, ça, je vois à peu près d'où ça peut venir, je ne sais rien, hein. Mais il y a quelqu'un qui l'a mis, quoi. Voilà. Alors on l'a enlevé, on l'a enlevé. Celui qui l'a mis, on comptait, on a coupé les cordes donc, après la cérémonie du 11 novembre, de mes adjoints. Et on a été le chercher lundi bon, pour le plier et le garder éventuellement, mais il a disparu, il a été récupéré. Mais peu importe, peut-être il va le servir une autre fois. Alors moi, je ne sais pas qui l'a fait. Hein. Elle a fait, après une cérémonie commémorative, je pense, si vous étiez, vous auriez pu vous donner mon texte. J'ai été très clair le 11 novembre sur la question 1. Ce n'est pas inintéressant de le dire. Hein. Quand en 14-19, en 14-18, il y avait 173 000 Algériens qui ont combattu avec l'armée française, 32 000 Marocains, et qu'à l'époque, comme je l'ai décliné, on leur demandait pas leur prénom à ces gens-là, quoi. Et donc, j'ai dit, et c'est pas innocent ce que je dis. Et puis j'ai aussi mis en avant la situation sur la base de l'agression de Poutine de l'Ukraine. J'ai mis en avant le drame que vit le peuple palestinien dans mon intervention, parce que c'est pas hors de saison, quoi. Et après, une soi-disant républicaine qui brandit une affiche disant oui à la paix, non à l'antisémitisme, me dire ça à moi. Mais enfin, pour la paix et la liberté, c'est ma marque de fabrique. Alors, et l'antisémitisme, c'est quelque chose qui m'est complètement étranger, et le racisme, etc. Et que ces gens-là sont capables de troubler une cérémonie républicaine de commémoration, de drame qu'a connu le monde, c'est pas si vieux que ça, il y a 100 ans, quoi, hein. Une boucherie, quoi, hein. Mais c'est inadmissible, hein. Inadmissible. Mais je pense qu'au-delà de notre sensibilité politique, les gens ont compris que c'est inadmissible. Voilà, c'est tout. Chacun est libre de manifester, chacun est libre de manifester son mécontentement quant à la gestion de la cité, dire on aurait pu faire mieux, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok, hein. Mais la presse a dit que j'étais énervé, fâché, mais pas du tout. J'étais un peu agacé, oui. Parce que c'est pas normal d'avoir une attitude comme ça. Alors je la dénonce avec tranquillité. Certains me demandaient de rédiger un communiqué lundi. Bon, je vais pas rédiger un communiqué, c'est pas la peine de s'étendre sur des agissements de ce style-là. C'est indigne de l'ordre républicain. Alors, on va me dire, Louis Labadon, il parle toujours républicain. Mais oui, je parle toujours, je prononce le mot républicain parce que je suis un républicain. La République, j'y tiens. J'étais le 16 juin à Vidangos pour intervenir dans le cadre des esclaves du franquisme, la route des esclaves du franquisme. Et donc, je suis intervenu de manière très forte sur ces questions-là. Et j'ai fait référence à ce que j'appelle tous mes voeux, la République espagnole. Parce que de l'autre côté, on ne parle pas de République. C'est très drôle, ça. On est en 2023, et le mot République, ça écorche la bouche de quelques-uns, quoi. Et j'avais beaucoup apprécié l'intervention du vice-président du Parlement de Navarre, qui était ici dans le cadre de Terre de lutte des mémoires, qui avait prononcé le mot de République espagnole. Mais il est temps qu'on prononce le mot République. Alors, républicain, oui. L'ordre républicain, moi, je sais ce que c'est. Aujourd'hui, la République, elle est en danger en France. Quand on laisse participer à des manifestations contre l'antisémitisme des partis fascistes, l'ordre républicain est en danger, quoi. Moi, je le dis clairement, quoi. Alors, ça veut pas dire, nous avons participé aussi en tant que parti communiste, nous avons participé à la marche contre l'antisémitisme, mais avec d'autres motivations quand même que le Rassemblement national, quoi. Alors, c'est quand même extraordinaire qu'on puisse blanchir, exonérer le Front National de son idéologie de racisme et de haine par une manifestation de ce type-là. Quelque part, on dit ils sont légitimes parce qu'ils sont élus, certes, mais il faut poser la question à tous qui les élisent, le mal qu'ils font au pays, quoi. Ben, c'est ça, je le dis avec beaucoup de gravité. Tant que j'aurai du souffle, je me battrai pour toutes les injustices, toutes les discriminations, et pour l'antiracisme, et pour l'antisémitisme, et pour la paix. Je crois que c'est important que ce soit dit. Alors, je m'éloigne un peu de notre bilan, mais notre bilan, effectivement, il est sur la base de projet, mais tout le monde sait quelle était notre étiquette politique quand on nous a élus. Donc, certains disent, je lisais le bilan de mi-mandat de la République, il y a un mois, en juin, le maire de Molins est plus clivant que œcuménique, disent-ils. Parce qu'il fait trop de politique. Ils ont fait un micro-trottoir, et les gens ont dit, bon, il est très présent, bon, on le voit souvent, il travaille, mais il est trop politique. Eh bien, je suis pas trop politique. Là aussi, je suis fidèle à ce que j'ai dit. Personne n'a douté un moment, en 2020, de mon appartenance au Parti communiste français. Je n'ai pas mis mon drapeau à la poche. Mais ce n'est pas une tare indélébile, d'abord. Je suis très fier d'être communiste. Et puis les gens ont souhaité, pour les raisons qui sont les leurs, qu'on dirige pour une période limitée de 6 ans pour l'instant, cette mairie. Donc je fais de la politique, oui. Fait la politique, je combats les orientations de Macron au niveau des retraites, au niveau de son fonctionnement, etc. Parce que c'est un fonctionnement aberrant, quoi, et qui met en cause. Quand aujourd'hui on lit dans les journaux que la pauvreté s'étend en France, quoi, qu'il y a des gens qui se privent de chauffage pour manger, mais c'est politique ça, mais il y a des raisons, quoi. Quand on ose culpabiliser les gens qui ont le RSA en leur disant le RSA c'est une aumône qu'on vous fait, mais il faut que vous travailliez 15 heures par semaine pour compenser l'argent qu'on vous donne, mais on se pose la question de savoir pourquoi ils sont au RSA, les gens. Non. Et il y a des gens qui disent mais c'est bien, c'est une bonne mesure ça. Oui, la majorité du conseil départemental a choisi cette orientation, c'est une orientation qui ne ressemble à rien selon moi, ça c'est la politique. Et le fait que je sois que je joue le jeu avec la CAPB, apparemment, oui, même en réalité, du fonctionnement de la CAPB, non, mais de l'existence, ça n'empêche pas que j'ai un regard critique sur sa création, que je n'ai pas oublié que j'étais fondamentalement contre la loi NOTRe avec tout ce que cela comporte. Donc, être maire d'une petite commune comme la nôtre, ça suppose beaucoup de recul, et surtout, justement, faire de la politique, mais dans l'intérêt de tous. Pas être partisan et pas se dire, bon, mon camp qui, de toute façon, en tout état de cause et toujours, ils vont me soutenir, ça c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Si on n'est pas conscient qu'il faut aller vers les gens, qu'il faut essayer de les entendre, on mécontente beaucoup de monde en étant à la tête d'une municipalité. On en satisfait aussi d'autres. Donc, il faut faire un mélange de tout ça. Et pour, au bout, présenter un bilan intéressant. Voilà. Jean-Luc disait à la conférence de presse, ce marché qui est un élément fort de la vie économique se développe. Les gens sont très satisfaits. Il y a beaucoup d'animation le samedi, c'est bon enfant, tout ça. Pourquoi pas inventer une idée de favoriser l'émergence d'un marché à la haute ville comme avant, c'est une réflexion. Bon, tout ça, c'est des éléments forts de l'activité. Mais mes colistiers sont tous au boulot, avec des façons différentes d'appréhender la situation locale. Mais je crois quand même que tout le monde sait que la totalité de nos élus travaillent. Et par exemple, notre solidarité. C'est aussi politique, héberger des Géorgiens, des Péruviens, des Algériens, etc. Mais c'est très politique parce qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir à la régularisation par le travail dans les métiers en tension. On était. Mais la loi Darmanin qui arrive là, avec la suppression de l'article 3, on fait quoi avec? C'est-à-dire qu'ils vont supprimer l'article 3 qui permettait effectivement... Prends un exemple. L'abattoir de Molins est un métier en tension. Si on a un réfugié qui peut travailler, on pourrait le régulariser avec la loi Darmanin finie. On en fait quoi? On les jette à la rue, on les renvoie chez eux, mais c'est de la politique, ça. Oui, politique, mais c'est la politique, mais dure aux faibles, ça. Dure aux faibles, avec tout ça. Eh bien, ça, je n'accepterai pas. Et le groupe qui est le mien va batailler à l'Assemblée nationale pour qu'effectivement on remette l'article 3. Et c'est le moins qu'on puisse, excusez-moi, le moins qu'on puisse faire, quoi.
Sibiula eta maulea arrajiteko, uskaen aldetik, uskaen bilan bat, zer egin duzie mandata erdi juntan uskaen unguian?
Je pense pas que j'ai fait plus que la majorité précédente, mais vous avez noté qu'au niveau de l'Icastola, on a subventionné, alors que rien ne m'obligeait à le faire, les enfants de maternelle, quoi, hein. Bon, parce que c'est normal. Je suis bien obligé de subventionner les écoles privées parce que c'est la loi, c'est le grand accord entre Lang et Cloupé qui permet, qui oblige les municipalités à subventionner. Moi, je le fais parce que c'est comme ça, puis c'est normal, ce sont aussi des citoyens de Moléon. Et donc je l'ai fait pour les Castolins parce que ça me semblait normal. Enfin moi, je vais pas dire je parce que c'est pas vrai, nous, parce que c'est plutôt nous. Et donc il y a eu aucun débat contradictoire sur ça, quoi. Quand la proposition a été faite, bon, c'est passé tout à fait normalement. Après, peut-être j'en fais pas assez, on en fait pas assez pour Gaël Scola, etc. Mais justement, à ce niveau-là, on a aussi discuté de notre rôle auprès des associations. Peut-être là, on n'a pas été suffisamment performant. Donc, dans quelques temps, on va travailler sur un contact avec les associations. Réunir les associations pour voir à peu près leurs besoins, mais aussi, en lien avec ce que j'ai dit avant, hein, leur montrer que c'est pas toujours facile de satisfaire les demandes qu'ils nous font. Sans se défausser, dire « Ok, on a augmenté ». On a remis les subventions aux associations au niveau qu'il était il y a quelque temps, puisque ça avait été baissé de manière drastique par l'ancienne municipalité, et on a augmenté de 10%, quoi. Mais c'est le moins qu'on puisse faire, quoi, pour l'instant. Et après, peut-être la situation financière s'améliorera, j'espère, quoi. J'espère, quand on aura touché toutes les subventions pour la place de la haute ville, etc. Et on verra, et y compris avec les... On a dit à un moment donné que Louis Lavado était le fossoyeur de la langue basque. Moi, j'ai trouvé ça très bizarre, parce que la langue basque et la culture basque, j'ai beaucoup de respect pour elle, à condition qu'elle se situe à ce niveau-là, quoi. Pas plus ni moins. La langue doit se développer, la culture basque doit se développer. Si elle doit servir par ailleurs à des fins partisanes, je suis moins prêt à accepter, mais ça, c'est ma façon d'être. Mais jamais je ferai quelque chose contre la langue et la culture basque, jamais. Je ferai le plus... De tout temps, je l'ai fait. Même quand j'ai été dans les autres municipalités, j'ai toujours fait en sorte que les Icastola, j'ai voté, etc. Et qu'on me colle à la peau ce fait que je serai le fossoyeur de la langue basque, ça me surprend. Ça me dérange pas. Hein. Et donc, par contre... Il y avait une page en basque dans le bulletin, ce coup-là, on n'a pas pu le faire. Le bulletin, on a travaillé 52 pages. On travaille toujours un peu à l'arrache, quoi. C'est nous-mêmes qui le constituons. On essaie de le rendre le plus attrayant possible. Mais si on nous amène de la matière, pourquoi pas, quoi. Je me rappelle quand il y avait la mascarade, un des acteurs de la mascarade m'avait dit, on peut mettre un article dans le bulletin. Oui, il dit, le bon tiré n'a pas été donné, mais il me dit, ça sera en basque. Je dis, mais en basque, si tu veux. Et il est jamais venu l'article. Donc, je l'ai mis, ça, je peux le mettre, je l'ai mis en français, parce que moi, j'ai mis quand même l'article sur la mascarade, mais parce que moi, je ne sais pas écrire un article en basque. Mais le gars en question, s'il me l'avait écrit, in extenso, il ne serait pas paru, parce que je n'aurais même pas corrigé, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, la langue basque, sûrement, on en fait pas assez. Sûrement, on peut nous reprocher. Dans le festival multiculturel, peut-être on ne met pas assez, mais ça aussi c'est du ressort des gens qui veulent s'investir. On ne met pas assez de programmation en basque, mais on est preneur. Hein. Et, voyez, on va prendre le prochain thème. Prochain thème, on a choisi, c'est pas de la provocation, on a choisi Cuba. On a choisi Cuba, ombre et lumière, c'est-à-dire ceux qui va bien, le blocus, ceux qui avancent à Cuba et ceux qui va mal. C'est le thème, mais à côté de ce thème, c'est un festival multiculturel. Si on a des demandes claires de spectacles, de concerts par ceux qui sont les tenants de la langue et de la culture basque, moi, tout à fait d'accord. Hein, tout à fait d'accord. Si on doit organiser le festival tout seul, il sera par essence même imparfait. Mais si c'est le fruit de la réflexion de tous, dans les limites bien sûr contraintes d'un budget, parce que tout le monde est conscient qu'on ne peut pas faire des festivals à 90 000 euros si on n'en a que 55, quoi, hein. Donc il faut quand même savoir si raison garder, mais moi je suis preneur. D'ailleurs, je le répète, c'était un autre programme festival multiculturel avec la diversité de Moléon, c'est-à-dire basque, portugais, espagnol et français. Voilà. Eh bien, on vit en bonne intelligence. Pourquoi pas faire quelque chose de bien ensemble? Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, financièrement, peut-être, on n'est pas à la hauteur. Mais sûrement, hein. Sûrement. Voilà.
Urentzeko, bon, aktualitatin, elki beita, hidrogena txerkatze sumait izan endiela, erraiten die artikulu batetan herriko etxik jakinin izan diela, edo ezapesak habo esienak pu, zuk zerbait jakin duzu hortaz, eta ze pentsatzen duzu hortaz?
Si on dit que la majorité des menos sont au courant, la majorité c'est pas tous, non, c'est pas moi. Voilà. Pour l'instant, je suis au courant de rien. J'ai été saisi par rien. Et après, j'examinerai en fonction de ce qu'on me soumettra. Mais pour l'instant, rien.
Et il dit si va du sort.
Non, pour l'instant, non, 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 non. Mais j'ai comme pratique en plus. tu vois, pendant la campagne électorale, on a écrit, puisque c'est écrit, je peux le redire, qu'on n'avait pas déterminé de compétences particulières dans la liste que je conduisais, y compris moi, je suis sans compétences, mais je connais pas tout, hein. Donc chaque fois qu'il y a un problème qui est soulevé, j'essaie de m'entourer de gens qui me donnent des conseils, ce qui est le cas pour beaucoup de choses, quoi. Donc le moment venu, ben je réfléchirai, quoi, il y a aucun problème. Et aujourd'hui, au niveau de ce bilan de mi-mandat, je veux dire aussi qu'on nous a reproché, mais à juste titre, qu'on ne se pencherait pas assez sur la question du logement. La question du logement est une question très, très importante à Moulin. Il n'y a pas de jour où on ne demande pas du logement, etc. Il y a 246 personnes qui sont venues à Moulin depuis le début du mandat, qui se logent parfois dans des conditions intéressantes, d'autres moins. Donc aujourd'hui, grâce à la municipalité, mais pas que, on va avoir très vite mettre en œuvre la production de logements. Nous, on va produire donc 6 logements en BRS aux Évents. L'initiative privée de jeunes, ici, dans les ruines, le long du Gave, il y aura 6 logements, 3 pour l'un et 3 pour l'autre. Bon, c'est bien, même si c'est pas nous, mais nous avons vendu à sa demande la ruine en question à l'un. L'autre, on l'avait, ça c'est aussi un regret, on l'avait racheté, l'autre partie, pour en faire un tiers-lieu à vocation sociale. Malgré tous nos efforts, malgré la concertation, malgré une étude, on n'a pas pu aboutir, donc c'était pas la peine de conserver une ruine, une verrue au centre-ville, dont on a revendu à un jeune local, quoi, qui va en faire son cabinet professionnel, plus des logements. Domo France va faire racheter le permis de construire à Belzunce en face de Lidl, et déjà le panneau est mis, donc il y aura 35 logements qui seront créés, intergénération, au début c'était pour personnes âgées non dépendantes, mais ce sera intergénération, à l'hostellerie du château il y aura 12 appartements en petite maison, donc effectivement il y a une production logement, la Solila va attaquer les travaux à l'école de la Basse-Ville, c'est-à-dire dans des bâtiments publics, on a rétrocédé pour 46 ans, l'ancienne municipalité, mais ça avançait pas. Donc on a fait avancer les choses par interventions diverses. Donc là aussi, il y aura 5 appartements. Donc on risque d'avoir entre 60 et 70 appartements à l'horizon 2025, quoi. Je crois quand même. Et puis on a aussi un document, enfin, on a une OPH RU, quoi, sur laquelle on est en train de travailler, mais ça va pas si vite que les gens le croient, quoi. Hein. Réhabiliter des logements indignes et compagnie, ça nécessite de la réflexion, et puis au bout, de la réflexion, du financement. Donc aujourd'hui, on est aussi sur cette question-là. Cette question-là, on l'a pris à bras le corps avec les services, que je remercie, hein, parce que nous avons la chance d'avoir des services particulièrement performants, quoi, et qui travaillent dans des conditions, je crois, normales, et qui travaillent dans l'intérêt bien compris de Moléon. Donc effectivement, il y a ça, mais il y a aussi un élément qui nous tient à cœur, c'est, j'ai oublié dans les promesses, le conseil municipal des jeunes, parce que je suis ancien instituteur, et j'anime le conseil municipal des jeunes la plupart du temps, ils sont mignons comme tout, hein, mais des fois ils me fatiguent plus que le conseil municipal des grands, voilà. Je crois que j'ai perdu l'habitude d'être instituteur. Bon, c'est super, il y avait beaucoup d'idées. Hein, beaucoup d'idées. Sans prosélytisme, il faut quand même être clair, parce que je sais quand même où je vis, et je connais aussi les orientations des parents. Bon, j'ai mis, je crois, dans leur tête une idée forte, c'est les questions de la paix. qu'ils aient pu planter un arbre de la paix, c'est quand même un truc fort. Et puis ce qui est bien, c'est venu d'eux, aller rencontrer les personnes de l'hôpital en juin, ça a été un temps fort, quoi, hein, avec toutes ces personnes et ces petits jeunes qui ont chanté. Et là, ils viennent de me dire, on avait une réunion du conseil la semaine dernière, ils veulent recommencer ça pour la Noël. Alors ça, c'est un élément intéressant, et donc je vais demander au directeur de l'hôpital avec qui j'ai tenu une conférence de presse hier, je vais lui demander si c'est possible, quoi, d'offrir un gâteau de Noël à toutes ces personnes âgées, et ils vont prendre contact avec eux. Ça, c'est un élément intéressant. Puis après, il y a un autre élément qui me tient particulièrement à cœur, c'est le pari qu'on a pris sur l'avenir, c'est le château Libérinx. Le château Libérinx, vous le savez, je ne vais pas refaire l'histoire, mais le château Libérinx était en délégation au service public. Avant, il était sous le contrôle de l'association Les Amis du Château. Ça s'est traduit par, ça aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est les finances publiques, hein, par un trou de 425 535 euros. Voilà. Donc ce truc-là, c'était où on continuait en service public, en délégation au service public, en perdant 60 à 70 000 euros par an, ou en engageant un pari en prenant ça en régime municipal à autonomie financière. Or, certains qui ne veulent pas du bien toujours nous ont promis la foudre en disant que ça va pas être possible de tenir parce qu'il y a des réparations à faire, etc. Ce qui est vrai. On a donc bâti un budget, on a fait ce choix. Si on se plante, eh bien on le dira. Hein. On a fait ce choix et on a bâti un budget prévisionnel et aléatoire parce qu'on n'avait pas trop de bases particulières. À 330 000 euros de recettes pour 310 000 de dépenses, c'est-à-dire en espérant un bénéfice de 20 000 euros, mais c'est pas ça l'objet, c'est l'équilibre, quoi. L'équilibre, aujourd'hui, on peut dire que dans des conditions difficiles, on a d'abord restauré le vieux château avec 80 000 euros de travaux. On est à 300 000 euros à ce moment de la réflexion, quoi. Donc on n'est pas loin du budget aléatoire et prévisionnel. On pense, le conseil d'exploitation va se réunir lundi ou mardi prochain, on pense être à l'équilibre pour la première année. Avec, mais honnêtement, un aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que dans ce type d'activité, pour avoir du personnel, c'est assez compliqué. C'est compliqué parce que malheureusement, on ne peut pas leur offrir, malheureusement, je dis bien, on ne peut pas leur offrir un emploi pérenne. C'est soumis à aléas. Donc on est obligé d'être sur des contrats à durée déterminée. C'est le genre de contrat que j'aime pas du tout. Mais il faut prendre la situation telle qu'elle est. Mais on a surtout la chance, mais sans modestie, va en souffrir, d'avoir un directeur qui a pris cette structure en abandonnant un travail nettement mieux rémunéré que celui que le salaire qu'il a actuellement. Et il a pris le château Libérinx vraiment à bras le corps. Bras le corps, et je veux le remercier parce qu'il le mérite et il a la volonté de réussir. Alors je le dis à nos détracteurs qui disent c'est pas possible. Moi j'aimerais plutôt qu'on dise c'est peut-être pas possible, mais on va essayer de faire en sorte que ça le soit, quoi. C'est-à-dire apporter une aide, c'est quand même, parce que le choix était ça, continuer à perdre 70 000 euros ou vendre. Vendre avec les emprunts qui restent à courir, avec jusqu'en 2037, vendre, on n'avait pas de quoi payer les emprunts. Et se priver d'une structure de ce type-là, c'est pas quand même un parc, enfin, vous voyez, ça a commencé. Donc on a fait ce pari, c'est un pari challenge. Si on se trompe, nous, on est capable, comme je l'ai dit pour le tiers-lieu social, malheureusement, c'est une idée généreuse. Elle n'a pas eu l'assentiment de tout le monde, donc on s'est trompé quelque part dans notre analyse. Mais peu importe, hein, c'est ça aussi la vie. Si on se trompe à Libérinx, on le dira, on a tenté, et voilà où on en est. Aujourd'hui, grâce aussi, puisqu'on a trouvé un terrain d'entente avec le lycée agricole, qui loue les locaux du lundi au vendredi, le vieux château. Le vendredi, le samedi et le dimanche, c'est libre de toute occupation. On peut en faire auberge jeunesse. Il y a un mélange d'activités. L'occupation, elle est presque continuelle. Et c'est très bien. Bon, on a repris le, l'hébergement des Icastolas du Pays Basque espagnol. C'est bien parce que ça apporte beaucoup, justement. Moi, je suis très content parce qu'au début, il y avait eu un petit hiatus. On a repris contact avec eux et ils reviendront, quoi, hein, parce que bon, ils sont accueillis dans des conditions importantes. Ce château, c'est un challenge. C'est mal prononcé, pour nous, c'est très mal anglais. Challenge, mais important, quoi. C'est, ça fait partie aussi de la vie, et puis du travail, quoi, du travail au quotidien. Si je suis ici aujourd'hui, tous les jours, les gens doivent trouver drôle. Il y a deux raisons. D'abord, faire aboutir tout ce qu'on avait promis, avec toutes les difficultés, toutes les lourdeurs, etc., peu importe. Mais aussi, je suis ici parce qu'on a régularisé la situation de pas mal de personnel en ne remplaçant pas la DGS qui est partie, non pas en contradiction avec le maire que je suis, en promotion au niveau de la sous-préfecture des Landes, parce qu'on peut, on pourrait dire que la DGS est partie et que c'est la faute de Louis Labadeau-Quenigny, ça n'y a rien à voir, mais on ne l'a pas remplacé, on a remis à niveau les gens qui a, parce qu'il y avait quelques distorsions, et aujourd'hui on n'a pas de DGS de plein exercice, donc je joue un peu le rôle de ça, quoi, mais c'est un peu compliqué, et heureusement, on a la chance d'avoir Jean-Jacques Esconder, qui normalement devrait être à la retraite, c'est très mauvais pour moi, parce qu'il a 65 ans, mais qui a demandé, qui m'a proposé de rester pour me donner un coup de main, nous donner un coup de main jusqu'à, pas la fin du mandat, puisqu'il nous quittera très vite. Il prendra sa retraite, malheureusement, au mois de juin. Et donc, on travaille dans des conditions un peu en flûte à nu. Hein. Pour moi, ça m'oblige à être simplement le maire, je ne suis plus l'homme de terrain sans doute que j'étais avant, je regrette beaucoup de ne pas voir mes concitoyens comme j'aimais les rencontrer, mais enfin, c'est ainsi, quoi. Mais on a au cœur, mais avec la modestie naturelle qui doit être la nôtre, qui est la nôtre, hein, au cœur, simplement, faire en sorte d'améliorer la vie au quotidien de la population dans sa diversité. Et la diversité, ça suppose de respecter toutes les opinions, ce que je crois faire le mieux possible, je peux me tromper aussi, toutes les opinions, être tolérant avec les gens qui le sont à notre endroit. Voilà, si l'intolérance elle est de notre côté, eh bien, on fait avec, hein, fait avec. Mais voilà, voilà ce que je peux tirer, disons financièrement, les objectifs et puis moralement du mandat, c'est une satisfaction intéressante, quoi, intéressante par rapport aux ressentis, y compris des gens. Parce qu'il faut le dire, hein, il y a des gens qui nous savent nous dire, qui sont satisfaits de ce qu'on fait. Et je crois que c'est important ça aussi. On ne peut pas rester dans une mairie à l'abri des turbulences de la vie économique et sociale. C'est pas possible ça. Il faut écouter, il faut faire en sorte que l'écoute apporte un plus, quoi, à la vie des gens. Et on fait aussi des mécontents. Mais ça c'est obligatoire. Enfin, c'est mécontent. On saura expliquer aussi pourquoi on a mécontenté le moment venu. Moi ou d'autres, enfin, de toute façon mon équipe, puisqu'elle repartira. Et pour terminer, avec moi ou sans moi, mais ça c'est pas très important.
Eskerik Hanitz, merci beaucoup.
Merci à vous tous.